cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 21 octobre 1987.
C'est la partie réflexive de la philosophie. L'intelligence a cette capacité d'une autocritique, d'une autoréflexion. L'intelligence peut comprendre son cheminement propre en réfléchissant sur elle-même. Oui. C'est le propre de l'esprit, ça. C'est du reste par là qu'on comprend ce que c'est que l'esprit. On est capable de regarder ce que nous faisons. Et affectivement, vous pouvez très bien, il ne faut pas trop le faire. Parce qu'effectivement, ça peut être très dangereux d'être spectateur de son amour. On peut très bien comprendre qu'on aime. Et quand vous comprenez que vous n'aimez pas. L'amour n'est pas comprendre qu'on aime. L'amour, c'est aimer. Mais je suis capable de pouvoir comprendre que j'aime. Dans l'ordre affectif, on peut très bien comprendre ce dédoublement. La psychanalyse que vous aimez tant, la psychanalyse, c'est justement cette critique que je fais sur mon affectivité. Je suis capable de réfléchir sur mon cheminement affectif. Et de m'apercevoir qu'à un moment donné, ça a déraillé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais depuis telle date, ça va plus. Je me sens mal dans ma peau. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a eu peut-être tel événement. C'est toujours très confus. Hein. La psychologie, c'est cette attitude de réflexion sur mes états d'âme, ou plus exactement, mon conditionnement, mes diverses activités. Vous voyez, il y a cette auto-réflexion qui est très curieuse, hein. C'est très très curieuse, l'animal n'a pas ça, du moins, autant qu'on peut le savoir. Vous pouvez vous regarder vous-même comme agissant. Et vous regardez vous-même comme agissant, comme réalisant telle ou telle chose, comme aimant, comme connaissant. Vous regardez cette autre chose que l'activité elle-même. Vous pouvez vous dédoubler, autrement dit. Et c'est là le danger. Parce que si vous poussez ça très à l'extrême, vous arriverez à vous dédoubler et vous serez tout le temps un peu spectateur de ce que vous faites. C'est très gênant. Alors il n'y a plus aucune spontanéité, il n'y a plus aucune chose directe. Et chez certaines personnes, ça va très très loin. Qui sont incapables alors de spontanéité, parce que toujours le petit spectateur qui est là derrière et qui critique. Qu'est-ce que tu viens de faire? Vous voyez, le scrupule au plan moral. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai fait ça. Ah, j'aurais dû pas le faire. Ah, j'ai fait ça sous l'influence de... Et ainsi de suite. Vous regardez le scrupule. C'est un dédoublement point de vue moral. Point de vue de votre activité morale. L'examen de conscience, sans tomber dans le scrupule, c'est quand même ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui t'est arrivé tout d'un coup? Ah, j'étais bête, je me suis laissé entraîner. Après une récréation mouvementée, on s'est mis en colère plusieurs fois. On réfléchit dessus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me suis mis en colère? Pourtant, ce frère, je l'aime beaucoup. Mais je sais pas, il m'a irrité en disant une bêtise à tel moment. Oui, vous êtes autocritique de votre vie. Alors, il y a là un problème philosophique extrêmement intéressant que beaucoup de philosophes ont essayé de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de ma conscience? Parce que c'est le phénomène de ma conscience. J'ai conscience de penser. J'ai conscience de vous parler. Mais si ma conscience est plus forte que ce que je dis, on dira, il s'entend parler. On dit ça quelquefois. Oh, celui-là, il s'entend chanter. Oh! À la place de vraiment entièrement louer le Seigneur, il est là à l'écoute. Oh, je chante bien. Oh, comme c'est beau. Extraordinaire. C'est curieux. Tous les anges sont en admiration, sauf mes frères. C'est comme ça. Et alors, il y a une espèce de dédoublement constant. On est dans un âge autoréflexe. À quel moment ça a commencé? Descartes. C'est Descartes qui a fait ça. Pourquoi? Parce que pour lui, la conscience de ma connaissance est plus importante que ma connaissance elle-même. Cogito. Si ma connaissance était plus importante que la conscience que j'ai de ma connaissance, je dirais je pense à Pierre. Ce qui est intéressant, c'est de penser à Pierre. C'est pas de penser. On s'en fiche pas mal de penser. Ce qui est intéressant, c'est de penser à Dieu. C'est de penser à mon frère. Ce qui est intéressant, c'est d'aimer Dieu. C'est pas intéressant d'aimer. Aimer quoi? Penser quoi? Oui, c'est ce que Husserl a très bien compris. Cogito, mais cogito de quoi? Quand on dit cogito, qu'est-ce que ça veut dire? Cogito, je pense. Ah oui, mais pense. Vous pensez tout le temps à quelqu'un, à quelque chose. Ah non, ce qui est intéressant pour Descartes, c'est de penser. La conscience que j'ai de penser. Et vous voyez, c'est très curieux parce que ça montre très bien qu'à ce moment-là, pour lui, la conscience de penser est plus importante que la pensée. Et je crois que ça a joué un rôle énorme. Le cogito de Descartes. Parce qu'en réalité, quand vous dites cogito, sans dire je cogite à quelqu'un, je pense à cette personne, je réfléchis sur cette personne, sur ce sujet. En réalité, quand vous dites le cogito, c'est que c'est vous que vous regardez. Je cogite, c'est-à-dire je me regarde. Je me connais. C'est très curieux. Je crois. Au fond, il y a ça. Donc, à partir de Descartes, la réflexion critique est devenue antérieure à la pensée. Ça s'est manifesté systématiquement avec Kant. Pour Kant, la critique est antérieure à la pensée. Et une fois que la critique est antérieure à la pensée, c'est la stérilité. C'est la famine. C'est extraordinairement curieux de voir ça. Voyez, comprenez bien ce que représente votre vie intellectuelle, votre vie affective, philosophie du vivant. On étudie notre spontanéité de vie. Un gosse qui vit, il se meut. Bon, la vie, c'est ça. La vie de l'intelligence implique on connaît, on aime. j'ai le plus agréable à regarder, c'est moi-même. Il y a des gens qui disent ça, ils n'osent pas le dire, mais au fond, c'est comme ça. Ils sont tout le temps face d'eux-mêmes. Comme c'était la chose la plus importante du monde. Stade le bout. Tiens, aujourd'hui, ça va pas très bien. Et le médecin est là. Ah, vous avez tant de tension. Et vous regardez ça tout le temps. Donc, la personne la plus importante au monde qui existe, c'est vous. Vous cogitez sur vous. Vous pensez sur vous et vous vous aimez. Et vous vous aimez parce que personne ne vous aime. Et vous réparez comme ça un vide énorme. Je m'aime. Oui, cette espèce d'auto-réflexion sur soi. Qui aboutit à l'ipsolipsisme. Comme dit Brunswick, c'est du reste très beau, l'ipsolipsisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. On est enfermé en soi. Alors, le gros problème sera comment rejoindre les autres. C'est le problème de Lévinas. On est tellement enfermé en soi, comment rejoindre les autres. Mais je ne me suis jamais posé le problème. Comment rejoindre les autres. Quand je donne la main à quelqu'un, est-ce que je le rejoins? Quand je marche sur les pieds de quelqu'un, est-ce que je le rejoins ou pas? Quand je suis dans le métro et qu'il y a un monde fou, est-ce que je me pose le problème? Il y a du monde autour de moi. Vous voyez, la connaissance première, c'est l'autre. L'amour premier, c'est l'autre. C'est pas nous. Mais on a tellement réfléchi sur soi qu'on est devenu le premier objet. À partir de Descartes, avec Kant ensuite, le problème critique est devenu premier. Et le problème critique, comprenez bien, c'est très important de voir la naissance de la critique. C'est que je suis capable, dans ma vie intellectuelle, spirituelle, de me dédoubler. De réfléchir sur ma propre connaissance. De réfléchir sur mon propre amour. Je peux donc réfléchir sur ma réflexion. C'est le jeu des miroirs. Il y a un miroir en face d'un autre miroir, et un autre miroir en face d'un autre miroir, et ainsi de suite. Je réfléchis sur ma propre réflexion. Et j'essaie de comprendre ce phénomène particulier qui est de réfléchir sur mon propre développement intellectuel. Alors, ce dédoublement, il existe, c'est un fait. Et quelquefois, j'en suis malade. Dans un monde comme le nôtre, je peux en être malade. C'est quelque chose qui pèse tellement que je n'arrive pas à sortir de ça. Il y a donc là un phénomène particulier, intéressant. Mon intelligence est capable de réfléchir sur elle-même. Si mon intelligence est capable de réfléchir sur elle-même, mon intelligence est capable de porter un jugement sur elle-même. Oui, je crois que j'atteins la vérité. Je crois que je suis dans l'erreur. Je crois que j'aime et que mon amour est bon. Au contraire de dire, ah non, cet amour n'est pas légitime, il n'est pas bon. Dans cet amour, il y a quelque chose de trop passionnel. Au contraire, cet amour est très spirituel. Il vient de Dieu. Je peux avoir cette attitude critique. Qu'est-ce que c'est que la critique? C'est le discernement. Pour voir si cette chose est bonne ou mauvaise. Critique au plan moral. Si cette chose est vraie ou fausse. Critique au niveau intellectuel. Voyez, le discernement qui porte un jugement de valeur, c'est bon ou c'est mauvais. Quand Dieu dit en créant ceci est bon et c'est même tout à fait bon, c'est Dieu qui lui-même, selon la révélation, porte un jugement sur son œuvre. Voyez, c'est très intéressant, c'est que dans le mouvement critique, apparaît le jugement de valeur. je crois que c'est toujours à partir d'une réflexion que le jugement de valeur apparaît. Le jugement de valeur n'apparaît pas spontanément. C'est très très curieux ça, je crois. Alors ça, c'est une petite question qu'il faut se poser. Parce que la question des valeurs, aujourd'hui c'est une très grande importance. La philosophie des valeurs, le zen. Dans votre moment perdu, lisez le zen. Philosophie des valeurs, pour la France. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? Parce qu'on en parle tout le temps. Les valeurs morales, les valeurs intellectuelles, les valeurs du patrimoine français, et les valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? Quand naît un jugement de valeur? Quand vous réfléchissez sur votre vie morale, vous dites ceci est bon, ceci est mauvais. Quand vous réfléchissez sur une démarche intellectuelle, vous dites ceci est vrai, ceci est faux. Jugement de valeur. Un discernement que vous faites à partir de cette réflexion sur vos propres activités. Il y a quelque chose de très important. Au fond, un être n'est responsable que quand il est capable de réfléchir sur sa propre activité. Et donc, cette auto-lucidité que j'ai de mon activité, elle est bonne. Mais elle peut devenir très encombrante et empêcher la spontanéité. Et à ce moment-là, ce qui est second devient premier, et c'est la stérilité. C'est très curieux ce phénomène. Il faut le saisir, ça, c'est très important. Parce que nous sommes avec le 18e siècle. Je crois que c'est au 18e siècle. Nous sommes en face de cette attitude réflexive qui devient première. Et l'attitude de connaissance directe et d'aimer quelqu'un dans la spontanéité de ma vie tend à disparaître. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, jugement d'existence. Il y a quelque chose qui me fait comprendre que, en effet, toute ma vie spirituelle peut se dédoubler. Il y a un fondement à cela. Et c'est un fait. Et c'est peut-être le caractère propre de l'esprit. Je suis capable de me regarder dans la glace. La première fois que vous êtes regardé dans la glace. Vous savez, la première fois qu'un petit chat se regarde dans la glace. C'est extraordinaire à regarder ça. Quand vous élevez des petits chats dans votre cellule, hein, mettez-le une fois en face de la glace. Puis vous verrez cette chose très curieuse. Il se regarde, il lève la patte. Et puis il voit que l'autre, il lève la patte. C'est quand même très troublant. De voir que l'autre fait exactement la même chose. Bon. Et vous, un gosse, quand il se regarde dans la glace, il sourit, il ose sourire. Parce qu'il est beau, parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est gentil, toujours de même humeur que moi. C'est extraordinaire. Ça, c'est un jumeau admirable. C'est le jumeau le plus parfait. Il répond. Ce phénomène du miroir, ce dédoublement, c'est seulement parfait. Très très curieux, ça c'est un phénomène très important à noter, que mon intelligence est capable de se dédoubler, et que toute ma vie affective, vous allez me dire, mais la critique existait du temps d'Aristote. Est-ce que la critique existe chez Aristote? Ça, c'est une très grave question. Une question très importante. Qu'on discutera tout le temps. Parce que Aristote ne fait pas de critique. Mais dans les métaphysiques d'Aristote, il y a des livres critiques. Et c'est souvent ce qu'on ne voit pas. philosophe doit être capable de justifier à chaque moment les démarches qu'il fait. C'est le propre du philosophe. Oui, comme le croyant doit pouvoir justifier toujours sa foi, le philosophe doit pouvoir justifier chacune de ses démarches. C'est là où vous voyez s'il y a une pensée philosophique ou non philosophique. Quand quelqu'un vous dit « Ah, ça, c'est pas philosophique », demandez-lui pourquoi. C'est très intéressant. Quand tu dis « Oh non, ça, c'est pas philosophique », pourquoi c'est pas philosophique? Quel est pour vous le critère d'une pensée philosophique? Vous pouvez réfléchir là-dessus. Ce serait très intéressant comme petite dissertation. Comme grande question disputée, quel est le critère d'une pensée philosophique? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est l'autolucidité? Est-ce que c'est la capacité de se justifier à chaque instant en disant, voilà, cette démarche que je fais, voilà où elle se rattache? Un philosophe qui ne sait pas où il en est, est-ce qu'il est encore un philosophe? Ou est-ce que c'est un errant qui se laisse aller au goût du vent? Girouette. Le vent va dans ce sens-là, il va dans ce sens-là. Le vent va dans le sens, il va dans l'autre sens. Girouette, c'est sûrement pas philosophique. C'est tout simplement capter le vent. Et dans le sens où ça va. On a fait ça pour les hommes politiques, c'est très intéressant. Ça a paru peu de temps après la guerre. Un petit livre qui s'appelait Girouette. Alors on voyait les grands hommes politiques avant et après. Et on mettait ça en parallèle. Et on s'apercevait qu'ils disaient juste le contraire. Ça, ils manquaient d'autolucidité. Parce qu'ils avaient été un peu lucides dans leur démarche. Ils ont dit rétractation. Comme dit saint Augustin, rétractation. J'ai dit ça en telle année, pour telle raison. Maintenant, je dis autre chose. C'est comme le cardinal Baudrillard, qui avait une position tout à fait différente entre les deux guerres. Alors, on lui dit, mais bon, éminence, voilà ce que vous avez dit. Alors, comme il est tout petit, il se redressait sur ses pieds en disant, acceptez que Baudrillard évolue. Et c'est très très joli, parce que ça c'est justement un manque de lucidité. Alors on dit ceci, et puis après on dit cela. Le philosophe doit toujours être lucide sur ce qu'il dit. Et il peut très bien, je ne dis pas évoluer, mais changer, approfondir. C'est normal. Si on recherche tout le temps, on approfondit. Bon, le phénomène existe. Chez Aristote, il y a des moments critiques qui sont faciles à saisir. Quand vous lirez les métaphysiques d'Aristote, parce qu'un jour il faudra les lire, vous vous demanderez, ce livre est-il critique? Ce livre est-il philosophique? Parce que la critique est au service de la philosophie, mais n'est pas la philosophie. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quel est l'objet de la critique? C'est ma propre pensée. Ou la pensée des autres. Parce que je critique les philosophes et je me critique. La critique porte sur la pensée des philosophes et sur ma propre pensée. La philosophie porte sur quoi? Sur l'homme existant. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a deux objets différents. Et donc il y a possibilité d'avoir deux développements différents. Le développement philosophique cherche à connaître ce que c'est que l'homme. Le développement critique cherche à découvrir le cheminement de la pensée humaine. Comment la pensée tout de suite saisir ce que c'est que la critique. Quand je dis ceci est... Qu'est-ce ? L'être. Si vous n'avez aucune lucidité sur votre pensée, vous ne verrez pas que qu'est-ce l'être est second et ceci est premier. Donc, il y a un ordre. Si vous êtes lucide, si vous n'êtes pas lucide et que vous recevez la pensée des autres sans voir comment cette pensée peut naître en vous, vous allez séparer. Qu'est-ce l'être devient premier et devient inintelligible. Parce que quand le second devient premier, il devient inintelligible. Et c'est constamment comme ça. C'est ça la critique. Je réfléchis sur deux aspects. Une première affirmation, ceci est. Une seconde activité de l'intelligence, l'interrogation. L'interrogation n'est jamais première. Jugement critique. Vous voyez, jugement de valeur critique. L'interrogation n'est jamais première. Vous ne naissez pas avec l'interrogation. Le gosse, dans son berceau, qu'est-ce que c'est que l'être ? Ce gosse de 4 ans posant à sa mère qui vient lui apporter la soupe. Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? 4 ans. Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors sa mère lui dit, mange ta soupe. Jugement d'existence. Mange ta soupe. C'est l'heure de manger ta soupe. Mais qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Et comme il revenait toujours, la mère le laisse. Elle revient au bout de 5 minutes. Le gosse mangeait sa soupe. Alors elle lui dit, alors tu as trouvé. Ah, c'était peut-être. Elle n'aurait peut-être pas dû te poser la question. Elle aurait dû rien dire du tout. Puis voir après. Mais elle a posé une question. Un chinois n'aurait pas posé directement la question. Il aurait laissé constater, on respecte l'autre. Oui, c'est un manque de respect. Est-ce que tu as trouvé ? Parce qu'il aurait pu très bien ne pas trouver, à ce moment-là, vous l'humiliez. Et il obéit, puisqu'on lui a demandé de manger sa soupe. Donc, on ne devrait pas poser. Et il est, mais elle est curieuse, elle est occidentale. Alors, elle est curieuse. Alors, elle dit, alors tu as trouvé ? Le gosse dit oui. Heureusement. Et puis, il prend son rond. Puis, il dit, c'est ça. C'est beau. À 4 ans, retrouver l'image de l'éternité. Je ne dis pas la pensée, mais l'image. Vous voyez, donc je reviens à cette question-là. C'est très important, ça, parce que ça vous fait comprendre ce que c'est que la critique. Ceci est, qu'est-ce l'être ? Vous avez là deux activités intellectuelles. Jugement d'existence, interrogation. vie intellectuelle. Parce que tous les blocages et toutes les confusions proviennent d'un manque d'ordre. Autre exemple, parce qu'ici, il s'agit de bien comprendre ce que c'est que la critique. Je disais tout à l'heure, à partir de Suarez, et ça vous le trouverez nulle part, ça n'a jamais été dit. C'est dommage, parce que de fait, la scolastique s'est développée sans critique. Il a fallu que Kant soit là pour obliger de faire un cours de critériologie. Suarez commence la métaphysique par les transcendentaux. Donc, Suarez commençant la métaphysique par les transcendentaux ne s'est jamais posé la question est-ce que les transcendentaux c'est premier? Le point de départ de la métaphysique, ça doit être quelque chose de premier. Ou bien alors je suis dans un rêve. Je commence ma métaphysique par des idées. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pour Suarez, la métaphysique commence avec l'idée d'être. Il a de la chance. Et l'idée d'être, dit-il, il le dit textuellement, l'idée d'être est finie et infinie. Il a de la chance d'avoir l'idée d'être infinie. Voyez Descartes. Tout de suite, l'idée, on commence par l'idée. Si votre métaphysique commence par l'idée, vous êtes en face d'une idéologie. Vous voyez comment Descartes est source de toutes les idéologies. Pourquoi un manque de critique? Si Suarez avait pensé, parce que de Suarez, génouite Descartes, n'oubliez jamais ça. Ça c'est sûr, hein. Descartes serait incompréhensible sans Suarez. C'est pour ça que la Sorbonne ne comprend pas Descartes, parce qu'il ne voit pas Suarez derrière. Les professeurs de Descartes étaient suarésiens. Et Descartes a reçu cette philosophie de Suarez et des professeurs, des disciples de Suarez. Et puis, comme il n'était pas bête, il n'était pas bête Descartes, il a rêvé dessus. Il a eu des intuitions. Ça, Descartes, c'est plein d'intuitions. C'est pour ça que c'est si difficile d'ordonner Descartes. C'est plein d'intuitions. Il a eu une intuition. L'intuition cogito. Je pense. Et je suis certain de penser, c'est ce qui est le meilleur. Et alors, à la place de mettre en premier lieu la recherche de la vérité, il met la certitude. Vous voyez, là encore, un manque d'ordre. Qu'est-ce qui est premier? La recherche de la vérité ou la certitude? La certitude, c'est premier subjectivement. La vérité, c'est premier objectivement. Ça, c'est toujours l'aspect critique. Qu'est-ce qui est premier? La critique cherche l'ordre dans mes pensées. Alors, je reviens à Suarez. Suarez met les transcendentaux, les idées, l'idée d'être, l'idée de bien. Alors traduisez ratio. L'idée d'être, l'idée de bien, l'idée d'un, et ainsi de suite. Et là, tous les transcendentaux. Mais vous comprenez bien que l'idée d'être n'est jamais ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier? Mais c'est l'expérience que j'ai de la réalité. De là va naître mes idées. Mais mes idées, elles ne sont pas innées. Alors Descartes est obligé de dire que les idées sont innées. Alors si les idées sont innées, elles sont premières. D'accord. Mais moi, je regrette. Je n'ai pas des idées. besoin d'expérience. Ils ont les idées innées. Vous voyez comme c'est propre de la réminiscence de Platon. Comme c'est propre, comme c'est proche du Ménon. Le Ménon, il faut lire le Ménon dans sa vie. Hein. C'est très très intéressant le Ménon. Le Ménon, c'est l'esclave qui sait tout. Alors mettez-vous à la place de l'esclave, vous savez tout. Et on voit bien l'origine de la pensée, l'origine des idées. Donc voyez, la critique, c'est d'essayer de comprendre l'ordre qui existe dans mes pensées, dans mes connaissances. J'ai beaucoup de connaissances. Très souvent, il manque d'ordre. Alors c'est confus. Dès que vous mettez un tout petit peu d'ordre, ça devient beaucoup plus net. Vous savez ce qui est premier, ce qui est second. C'est pour ça que la critique n'est jamais première. Contrairement à ce que dit Kant. Kant dit que la critique est première. Il faut d'abord critiquer. Puis ensuite, on édifie une philosophie première, une métaphysique. Pourquoi Kant dit-il ça? Comment se fait-il qu'on puisse dire que la critique est première? Parce que c'est assez gros, moi, je ne sais pas, mais normalement je critique quelque chose qui a été pensé. Quand je lis le livre d'un auteur inconnu, je n'ai aucun a priori. J'ouvre ce livre. Oh, comme c'est intéressant. Puis tout d'un coup, je trouve une grosse erreur. Du moins, ce qui me semble être une erreur. Mais qu'est-ce que c'est? Alors à ce moment-là, je reviens sur l'auteur. Je dis, mais qu'est-ce qui... C'est qui? C'est qui ça? C'est un philosophe, un théologien, un croyant. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, on revient pour découvrir comment il a pu dire ça. Comment il a pu dire ça? Le propre de la critique, c'est de chercher le comment. Puisque c'est l'ordre. C'est le comment, c'est pas le pourquoi. C'est le comment de l'apparition de telle ou telle erreur. Comment Suarez a-t-il pu mettre les transcendentaux en premier lieu? Comment a-t-il pu faire ça? Parce que il a tiré sa philosophie de la somme théologique de saint Thomas. Il a laïcisé la pensée de saint Thomas. Alors, à ce moment-là, je comprends très bien. Ce sont les idées, les rationes qui sont premières. Les définitions qui apparaissent en premier lieu. Et le cheminement de la pensée, la découverte profonde du cheminement de la pensée n'est pas donnée. Or, je ne peux transmettre une vérité que si je montre comment on arrive à découvrir ça. Autrement, vous demandez à quelqu'un d'apprendre par cœur les définitions. C'est pas de la philosophie. Apprendre par cœur les définitions, c'est pas de la philosophie, c'est de la logique. Tandis qu'au contraire, quand vous pouvez montrer comment apparaît telle ou telle idée, alors, donc, la critique, elle est contemporaine de la philosophie. La critique ne sera parfaitement critique que lorsque j'arrive au terme de la philosophie. Je critique ce que je connais. Vous voyez, faites un tout petit peu cet aspect-là. Quand vous montez en montagne, quand vous faites une grande ascension, faites une grande ascension, hein. Vous allez à l'Himalaya, tout en haut. Qu'est-ce que vous faites? À 1000 mètres, vous vous arrêtez et vous regardez le paysage. À 2000 mètres, vous vous arrêtez. 3000 mètres, ainsi de suite. Hein. Vous avez le droit, surtout quand vous circulez avec la carte Michelin, qui met beau paysage, vous vous arrêtez. Voilà, c'est exactement. Ouais. Pittoresque, vous vous arrêtez. Ici, ici. Bon, vous voyez tout de suite que le paysage que vous avez est autre à toujours le même paysage. Bien, la critique, elle est contemporaine à la philosophie. Alors, si vous faites la critique, n'ayant pas atteint les 10 000 mètres de l'Himalaya métaphysique, vous n'avez pas atteint le sommet, vous faites la critique quand vous êtes qu'à 1 000 mètres. Votre critique ne va pas très loin. Tandis que si vous avez atteint le sommet, ah, tout s'éclaire. C'est pour ça que la critique ne peut se faire parfaitement, et saint Thomas nous le dit, que lorsque la philosophie est devenue une sagesse. C'est la sagesse qui a ce privilège d'une autocritique. Parce qu'il faut atteindre le sommet pour pouvoir vraiment tout critiquer. Alors vous allez me dire, mais c'est pas commode. C'est vrai. Mais il faut apprendre à critiquer très vite la critique philosophique. C'est-à-dire de comprendre ce que c'est. Même si vous n'êtes qu'à ras du sol. Mais au ras du sol, vous ne critiquez pas beaucoup, vous savez. Vous vous élevez un tout petit peu. Alors vous pouvez déjà avoir une petite perspective. Et puis alors, si vous élevez plus. Donc, la critique est contemporaine de toute la philosophie. Mais pour que la critique puisse vraiment aller jusqu'au bout, il faut s'élever le plus haut possible. Donc, s'élever jusqu'à la sagesse philosophique. Et la sagesse philosophique, c'est quand mon intelligence a découvert l'être premier, celui que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, et que je découvre le Créateur. Et c'est dans la lumière du Créateur que je critique tout. Critique positive, pas négative. La critique, c'est pour retrouver l'ordre. C'est positif, critiquer. La critique négative, elle est passionnelle. La vraie critique, c'est pour aller plus loin. Donc c'est positif. Et j'essaie de découvrir dans n'importe qui, n'importe quel auteur, ce qu'il peut y avoir de vrai. Mon intelligence est faite pour ça. Elle mendie le vrai à travers tout. Et dès qu'elle découvre une petite parcelle de vérité, je suis un illustre inconnu. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est qui ? J'ai découvert ça. Vous voyez, la critique, c'est quelque chose de positif. C'est l'intelligence qui critique pour aller plus vite. C'est l'intelligence qui critique pour pénétrer davantage. C'est l'intelligence qui critique pour ne pas prendre de fausses routes. Mais c'est toujours cette attitude réflexive d'une intelligence qui a cette auto-lucidité sur sa propre.